vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes.
C'est moi, c'est Gérald Rousseau, vous m'avez reconnu, Pluriel Gay. Bonsoir à tous les auditeurs, bonsoir à toutes les auditrices, merci d'être avec nous ce soir pour une nouvelle émission de Pluriel Gay. Et j'ai l'honneur et le plaisir de vous dire que Laurence a absolument rien à foutre de ce que je raconte.
Elle est mais si je t'écoute.
Ah, bon.
J'indique que je participe à l'émission sur Facebook. Laurence. À l'heure pile. Les temps.
Laurence est là. Vous avez compris.
Bonsoir tout le monde. Bonsoir Gérald.
Bonsoir Laurence.
Merci de ton accueil.
Mais avec plaisir. Bernard est aux manettes.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et puis je vous souhaite une bonne émission.
Eh bien, merci Bernard.
On t'entend très bien.
Alors, ce soir marque le retour sur nos ondes de Yvan Mitifio.
Bonsoir.
Bonsoir Yvan.
Bonsoir.
Quelle voix.
Oui, et je viendrai vous parler de deux films.
Tantor.
Je viendrai vous parler de deux films importants qui sortent la semaine prochaine en deuxième partie d'émission.
Ah, tu n'es pas venu nous parler de ton andropause alors, c'est ça?
Non, je suis venu en tant que chroniqueur cinéma d'émission.
Très bien. Et Roméo, lui, qui est très loin de l'andropause, Roméo Isard, que nous connaissons déjà l'émission.
Oui, bonsoir.
Bonsoir Roméo.
Bonsoir.
Va donc nous parler ce soir de mémoire minoritaire. Parce que Roméo, il s'occupe de plein de choses, on sait déjà qu'il est. On l'avait reçu aussi en tant que responsable de la commission bibliothèque, notamment, au centre LGBTI de Lyon. Mais en plus, il s'occupe d'une association qui s'appelle Mémoire Minoritaire, mais tu nous en parleras un peu plus tout à l'heure.
Avec plaisir, oui.
Voilà.
Mais il est aussi à Écran Mixte. Il est le responsable de vos archives à Écran Mixte.
Oui.
Et il participe aussi à la programmation.
Il était lié aussi à ce titre, on avait parlé de l'archive de Languet.
Oui. Et pour cette thèse.
Voilà.
Le mémoire.
Tout à fait.
Et cette année, donc, il a écrit aussi des textes dans d'autres catalogues et il animera aussi des séances en salle. Voilà.
Eh bien, c'est formidable. Mais il ne sera pas tout seul à animer les séances en salle, n'est-ce pas?
N'est-ce pas?
Voilà. Mais c'est une surprise. nous réservons, gardons le suspense. Bon. Alors donc, Yvan, tu as souhaité prendre la parole en premier, c'est ça? Ou non, Roméo?
En deuxième partie.
Comme tu veux, en deuxième partie.
Bon. D'abord Roméo.
Qu'en penses-tu, Laurence? Il faut voter. D'abord Roméo ou Yvan?
Laissons les invités choisir.
D'accord.
Enfin, laissons Yvan choisir.
C'est mieux.
Donc, je me tourne vers toi, Roméo,
oui.
Parce que c'est toi qui vas avoir l'honneur d'avoir la parole en premier. Roméo Isard, donc, je t'ai un peu présenté déjà, comme ils sont mieux. Alors, la bibliothèque, ça avance,
au fait. Ça marche très bien, et j'aimerais aussi te remercier, puisque la dernière fois, tu avais parlé des photos de Jean Marais,
ouais.
Qui était passé à Arris, donc à l'ancien local de Polycarpe. Donc, il y a quelqu'un qui a déposé des photos, justement, de Jean Marais. Donc, maintenant, elles sont archivées au centre LGBT, donc, merci. À toi, et merci à cette mystérieuse personne qui a donc déposé ces photos.
C'est des photos cultes.
C'est peut-être le fantôme de Jean Marais.
Des photos de Jean Marais.
Non, c'est le fantôme de Jean Marais qui a déposé les photos.
Ah. C'est vrai.
Oui, peut-être.
Mais qu'est-ce qu'il faisait au centre, Jean Marais?
Jean Marais?
Bah, on sait pas encore, il faut qu'on fasse toute cette histoire-là, cette histoire de Lyon, et donc on cherche encore des archives, justement, pour,
Il se trouve que Jean Marais, en fait, c'est Michel Branchu qui l'avait invité à venir à Arris. Et il était venu parce que quand même, Jean Marais, tout compte fait, c'était aussi quelqu'un de militant. De militant pour la cause LGBT, la cause homo, on disait plutôt à l'époque. Et il était passé dans les locaux d'Arris, il avait passé une soirée complète, où avec les personnes qui passaient au centre, etc. Ça devait être quand même assez hallucinant. Tu débarques,
oui, bien sûr.
À façon, on disait pas le centre, après c'était Arris, tout simplement.
C'est Arris, c'est bim, Jean Marais.
Voilà. Tac! T'arrives là, Jean Marais.
Quand même, c'est un délire. Quel âge il avait alors à l'époque?
Ah, ça, je sais pas.
C'était en 88,
ouais.
Non, mais quel âge, Yvan?
Bon, il avait bien 60 ans, hein.
Ah oui, facile. Donc voilà. Là, c'est très bien, non mais c'est formidable.
Ah oui,
c'est donc du coup, les photos, elles ont été versées au dossier des archives du centre LGBTI.
Voilà, donc bah, maintenant on a installé les meubles, donc la bibliothèque est en place.
Ouais.
Donc bah là, la commission bibliothèque vient de fermer puisqu'on a une permanence donc de 18 à 20 heures
tous les mercredis.
Voilà, donc tout le monde peut venir, peut consulter et emprunter les ouvrages. Et donc on a aussi un meuble à archives. Et donc, les photos sont dans ce meuble archive. Et donc, tout le monde peut aller au centre LGBT, déposer ses photos, ses archives, voilà. Et nous, on va y garder, y archiver, et voilà, vous avez après la certitude que ça sera conservé et bien conservé.
J'ai entendu, il a dit, on va y garder.
Oui,
on va y garder.
Il est bien là, le jeune homme.
Oui, voilà. Et on fait un appel, d'ailleurs, après tout, puisque ça a fonctionné, un appel à tous ceux et à toutes celles qui voudraient bien déposer des photos. Je pensais à d'archives, qui pourraient devenir des photos d'archives. Je pensais, on avait évoqué les photos de Cocotte. Cocotte, la vestiaire du, la petite taverne. Sa fille, Cocotte est décédée, mais sa fille a conservé dans une boîte toutes les photos des soirées de la petite taverne. Et ça, ça peut être extraordinaire.
C'est énorme.
Fille de Cocotte, si tu nous entends.
Et les archives aussi de l'émission. Hein, des photos des invités.
Oui.
Si un jour il y a des invités qui ne sont plus là, on aura une trace de leur venue.
Ou des animateurs qui sont plus là.
On sait que tu as un talage de l'entreprise, ils voient, mais ils nous enterrent pas trop vite quand même. Bon, donc, Roméo, maintenant, on va aborder le sujet qui va nous occuper un petit peu ce soir dans la première partie de l'émission. Donc, mémoire minoritaire. La mémoire minoritaire, c'est un projet que tu as mis en place, qui est bien maintenant, comment dire, sur les rails, on dira.
Ouais.
Puisqu'il va y avoir une exposition, et c'est la deuxième même, je crois, expo.
Ça va être la première expo, mais c'est la deuxième édition. Donc, en fait, c'est un copain, moi, qui est médiateur numérique à la bibliothèque municipale, donc à Jean Massé.
Ouais.
Et donc l'année dernière, dans le cadre d'un cycle qui était organisé à la bibliothèque municipale, qui s'appelait Démocratie, et pour lequel la bibliothèque a été récompensée. Mmh. Donc elle avait organisé plusieurs conférences qui s'appelaient Mémoire minoritaire, donc sur justement tous ces aspects d'archives mémorielles autour des groupes de libération sexuelle. Et donc cette année, on monte un peu en niveau. Moi, je l'ai rejoint parce que ça me botte tout ça. Donc voilà. Et donc, on va faire une exposition cette fois-ci, toujours à la BM de Jean Massé. Ça sera en avril, du 13 avril au 5 mai. Et donc, cette exposition va exposer des archives et des traces des mouvements d'émancipation lyonnais des années 70. Et donc, on va exposer plusieurs fonds d'archives, notamment le fonds Chomara. Aujourd'hui, on a eu la confirmation aussi pour le fonds Louis Labbé, qui est conservé donc à l'Université de Lyon, et qui a beaucoup d'archives de femmes, notamment du Centre des femmes, et aussi des archives lesbiennes, notamment des rencontres dans les années 70. On va exposer aussi le fonds Bruno Hérail, qui était un ancien militant du GLH de Lyon, du groupe de libération homosexuelle, donc qui lui a déposé ses archives au CEDRA, qui est un centre de ressources alternatifs dans les pentes de la Croix-Rousse, et aussi, si tout se passe bien, quelques documents aussi du planning familial, qui a des archives extraordinaires qui datent, qui remontent aux années 60.
Donc très dense, une exposition très dense.
Mais du coup, quand tu parles, enfin toi et ton collègue, quand vous parlez de mémoire minoritaire, c'est uniquement pour les minorités. Tu parlais de, en gros, des libérations sexuelles, quoi. Donc tout ce qui a trait au féminisme et à l'homosexualité, en gros.
Pour l'instant, oui.
Pour l'instant.
Mais après, bon, on a un terme un peu technique. On appelle ça l'intersectionnalité. Et on aimerait bien justement ouvrir après sur d'autres minorités ou personnes considérées comme minoritaires dans la société. Et donc on va essayer justement de faire des animations et des ateliers autour de cette exposition en invitant les personnes concernées, en essayant d'ouvrir un petit peu sur d'autres univers.
Alors, il se trouve que, je dirais de façon périphérique à cette exposition, il y a d'autres événements prévus autour de cette exposition, donc, l'exposition des mémoires minoritaires à la bibliothèque Jean Massé. Et notamment, je sais que demain, dans un lieu qui s'appelle le Rita Plage, alors, je ne sais pas si tu en as entendu parler, le Rita Plage à Villeurbanne, il va y avoir une soirée de soutien, je crois, à mémoire minoritaire, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Parce que, du coup... Le but quand même de cette exposition, c'est de faire intervenir les personnes qui sont concernées dans la construction justement de l'exposition. Soit pas des quelqu'un, enfin un historien ou un bibliothécaire qui arrive et qui qui disent ça s'est passé comme ça et voilà. Donc non, c'est de faire participer les personnes à la construction de l'exposition, à la mise en espace, à l'écriture des cartels, donc des petites affichettes pour les documents. Voilà, faut que ce soit un petit peu vivant justement, faut que cette mémoire soit vivante. Et donc on fait des ateliers en amont de l'exposition à l'ABM de Jean Massé. Donc on a déjà fait un qui a eu beaucoup de succès en janvier. Donc c'était complet au bout d'une semaine. Donc on a eu 30 personnes, c'est super bien passé, c'était extraordinaire. Et donc là on en refait un ce samedi à l'ABM de Jean Massé où les personnes peuvent encore s'inscrire. Il reste encore quelques places. Et demain on fait une soirée de soutien au Rita Plage. Donc, on appelle aussi à la collecte d'archives et donc on vous invite à découvrir l'association autour d'un verre et on fera aussi quelques projections surprises et quelques ateliers surprises. Donc voilà.
Pour revenir au Rita Plage aussi, c'est un nouveau lieu alternatif, on va dire. Oui. Il y a beaucoup de thématiques LGBT féministes qui sont présenté, je dirais, dans ce qui est un bar, un restaurant.
Oui, c'est super chouette. C'est Étienne et Marlène qui tiennent ça. Donc c'est plutôt un bar-restaurant vegan et qui font intervenir pas mal de collectifs et de personnes très engagées dans les mouvements féministes, qui font des petits ateliers le soir, sympa, c'est pas aller du tricot ou soirée plus dansante. Enfin, c'est vraiment très chouette. C'est un lieu alternatif à Villeurbanne. Et si vous connaissez pas, faut vraiment découvrir.
Bah demain, par exemple, ça sera l'occasion.
Oui.
Donc c'est à partir de quelle heure demain?
C'est à partir de 18h. Bon, on va faire les projections à partir de 20h.
Et tout le monde peut regarder dans ses archives pour amener quelque chose, c'est ça?
Hein, c'est ça, oui, hein, parce que
les photos, tombola qu'on a retrouvé dans le grotte de Lascaux. Tout le monde peut venir avec ce...
Oui. Voilà, les archives, c'est aussi du quotidien. C'est pas quelque chose qui est forcément à vie. Enfin, un vieux, c'est pas forcément que du papier. Mmh. Ça peut être un objet, ça peut être un souvenir, ça peut être une odeur. Enfin, voilà, il y a tout ça. Donc, il y a des témoignages oraux, tout ça. Voilà, les archives, c'est vraiment très large, au sens large. Donc, voilà, tout le monde peut participer. On a tous des objets sur nous aujourd'hui qui peuvent être des archives, qui sont porteurs de mémoire. Donc, voilà.
Bien, et le 24, donc, c'est à la bibliothèque municipale de Jean Massé.
C'est ça. Donc, c'est un atelier. Donc, ce deuxième atelier, ça sera autour des cartels. Donc voilà, c'est de 14h à 17h et vous pouvez encore vous inscrire, il y a encore de la place.
Mais c'est quoi les cartels?
Alors les cartels, c'est les petites affichettes que tu as dans les musées, en dessous des œuvres, et qui t'indiquent d'où vient l'œuvre, qui c'est qui l'a fait, à quelle date, la technique, voilà. Donc on va essayer de réfléchir à comment écrire un cartel. Et comment aussi coloniser les cartels, c'est-à-dire les rendre un petit peu LGBT, un petit peu féministe, voilà. Donc là, on s'inspire d'une historienne de l'art qui s'appelle Elisabeth Lebovici, qui a écrit donc dernièrement un livre sur le sida. Et donc voilà, et elle avait fait une intervention à l'ONS que d'ailleurs on avait
teasé.
Et donc pendant cette intervention qui était très géniale, donc elle nous a parlé des cartels et elle nous a engagé à nous emparer des cartels. Voilà. Donc on va essayer de s'emparer des cartels, les couriser, voilà, pour rendre les musées aussi plus ouverts et plus divers.
Bernard, atelier coloriage samedi après-midi, bibliothèque municipale de Jean Massé.
Le problème, c'est pas loin de la maison.
En plus.
Et je voudrais rebondir sur Jean Marais.
Ah,
il est venu en 88.
Oui, c'est ça.
Il avait 75 ans.
Ah ouais, oulala.
Voilà.
Punaise.
Ah ouais. Il était vraiment déjà vieux. 75 ans, c'est pas trop vieux encore à notre époque, mais il est décédé il y a combien de temps, Jean Marais?
10 ans plus tard, en 98.
D'accord. Donc, à 85 ans. Alors, donc, on va rappeler aussi les... Merci Bernard pour cette précision. On va rappeler aussi la date de l'expo en elle-même.
Donc, le vernissage, ce sera le 13 avril à Jean Massé à 18h.
D'accord. Rappelle-nous le nombre d'expositions.
Réplique.
Réplique. Ouais. C'est joli. Bibliothèque Jean Basset, c'est 2 rue d'Omer, Lyon 7e. Alors, donc, de toute façon, comme d'habitude, je mettrai toutes les infos sur les réseaux sociaux de l'émission. Pluriel gay.
Merci.
Mais avec plaisir. Avec plaisir. Et puis, c'est un travail important qu'il faut réaliser, puisque, comme dirait Yvan, qui s'occuperait de nos mémoires si nous ne le faisons pas nous-mêmes, n'est-ce pas? Je cite dans le texte. Donc, Laurence, tu nous as amené de la musique.
La musique, yeah.
Yes. Et ben, c'est toi qui vas nous annoncer ça.
Pas vraiment. Du Ariel Dombal, comme
non. Non, mais alors, c'est une chanson que je ne connaissais pas. Alors, peut-être que vous connaissez. Une chanson qui date de 90, que j'ai entendue subitement à la radio. D'un coup, j'ai entendu ça.
Ouais.
Et je ne sais pas si je dois aimer cette chanson, ou si je dois dire c'est de la merde.
D'accord.
Je ne sais pas, c'est étrange.
Mmh.
Et c'est le chanteur, en fait, il s'appelle Boule Noire. Est-ce que ça vous dit quelque chose?
Boule Noire.
Boule Noire.
Pas Poule Noire, Boule Noire.
Boule, comme une boule. En fait, son vrai nom, c'était, parce qu'il est décédé, George Thurston. C'est un chanteur québécois.
D'accord.
Qui chante en français.
Oui.
Et donc, il s'était appelé lui-même Boule Noire, parce qu'à l'époque, quand il a commencé à chanter dans les années 70, il avait la coupe afro.
D'accord.
Boule Noire.
Mmh.
Et donc, c'est une chanson qui s'appelle « Aimer d'amour ». Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un?
Non.
Incroyable.
Non.
J'étais sur Nostalgie, peinarde, tranquille, et bam! Ce truc?
Tu connaissais pas, non?
Pas du tout.
D'accord.
Improbable. Alors, j'ai cherché, il se trouve que c'est une reprise d'une chanson qui date de 1980, excellente année, passage, du groupe Cachemire. Alors, c'est un groupe hollandais. Alors, pas Cachemire, parce qu'il y avait un groupe Cachemire qui était un groupe de punk français.
Oui.
Alors, c'est pas celui-là, c'est un autre.
D'accord.
Cachemire.
Ceux-là, ils sont hollandais.
Qui sont hollandais.
Mmh.
Voilà, qui ont commencé à chanter à la fin des années 70.
Mmh.
Et donc, le titre original, c'est Love's What I Want.
Mmh.
Et donc, Boule Noire a fait une reprise, ça s'appelle Aimé d'amour. Mais c'est, je sais pas, j'aime bien, et puis en même temps, je me dis, ah, oh, quand même.
Mmh.
Voilà. Bon, voilà.
Bon,
je vous laisse.
On va se juger en même.
Voilà.
Boule Noire.
Pluriel.
Bon, ben écoute, c'était très
ça
bien.
Ça vous a plu, non? Oui, alors. En fait, t'es la seule à pas connaître. Enfin, ouais. Roméo
non plus. Ouais, Roméo non plus, mais lui,
il était pas né.
Mais lui, le Devielle, il a eu 20 mois.
J'ai découvert aussi.
Ah, Bernard connaissait pas Ludo. Ouais. Pourtant, c'est le plus vieux.
Oui, mais tous. Tellement vieux que lui,
moi, je lui peux parler de.
C'est ça.
D'André Claveau, par exemple.
Le frêle. Tu n'es pas tombé sur le frêle, Harris, un jour? Non?
Ah non, je sais pas.
Sur la pensée d'affaires, quand même. Pour Bernard. Il est même quand ça fait devenir.
Ah, qui aime bien Charivien,
maintenant. Voilà, c'est ça. Donc, on va revenir à nos moutons. Et donc, à Yvan. Et, aussi Roméo, bien entendu, puisque Roméo est aussi impliqué dans tous les événements dont nous allons parler. Enfin, je sais pas, on va parler
de plein de choses, Roméo.
C'est plein de choses. Et on va commencer par parler de quoi? De quoi veux-tu nous parler en
plein? Bah, la semaine prochaine, il y a deux films importants qui vont sortir.
Voilà, qui sortent le 28 février.
Le 28 février. Et, le grand film gay de l'année. Le film dont tout le monde parle depuis des mois et des mois, qu'on annonce déjà comme le grand champion des prochains Oscars le 4 mars prochain, c'est Call Me By Your Name.
Un film de Luca Guadagnino.
C'est ça, un cinéaste italien.
Ouais.
C'est un cinéaste italien qui avait déjà tourné deux films avec Tilda Swinton, un remake de La Piscine qui s'appelait Bigger Splash et un film qui s'appelait Amore.
Ah.
Donc c'est un cinéaste qui a vraiment le vent en poupe.
Et ça, c'est un film italien ou
Ah oui, c'est une production américano-italienne, québécoise, mais c'est un film italien.
D'accord.
Et là, il est en train de travailler, c'est vraiment le cinéaste actuellement européen qui a le vent en poupe, il est en train de faire un remake de Suspiria, de Dario Argento.
Ah oui.
Mais c'est avec principalement des acteurs américains, non? Call Me By Your Name. Non.
Oui, ce sont des acteurs américano-français, mais l'histoire se passe en Italie. Donc
c'est extrêmement cosmopolite.
Donc c'est le film dont tout le monde va parler, c'est le film gay de l'année, ça va être le grand événement gay, comme l'a été Moonlight l'année dernière. Donc l'histoire, elle est toute simple, c'est quoi? C'est une romance adolescente. Ça se passe en Italie en 1983, le temps d'un été. Une grande famille, une riche famille.
Il y a une petite musique de fond là.
Oui, imagine déjà on est bien là.
Un peu de mandoline.
Oui,
1983 en campagne, dans le
sud. Alors.
Non, dans le nord là plutôt. Ah, je me trompe. C'est dans le nord de l'Italie, puisque le film commence quelque part dans le nord de l'Italie.
Quelque part.
Là, c'est mystérieux.
Somewhere.
Et donc dans le temps d'un été. Une riche famille d'archéologues, d'historiens, s'installe là pour l'été. Mmh. Et ils ont un fils de 17 ans qui s'appelle Elio. Voilà. Et ils vont recevoir durant cet été un étudiant de 24 ans, qui en fait quand même beaucoup plus, qui va s'installer avec eux.
D'accord.
Et donc c'est l'histoire de l'éveil à la sexualité de ce jeune Elio de 17 ans. Et donc il y a tout un jeu de chat et la souris entre les deux, entre l'adolescent et le l'étudiant donc. Et ils vont se chercher, ils vont se provoquer, ils vont jouer au jeu de au chat et à la souris jusqu'à voilà.
Ah,
vous verrez.
Mais jusqu'où?
En tout cas, alors, ce qui est très intéressant, c'est que c'est le grand retour de James Ivory, non pas à la réalisation, mais au scénario. Donc, on se croirait vraiment dans un film de James Ivory, dans un film
esthétique.
C'est comme très mainstream. C'est du grand cinéma classique. C'est très léché.
James Ivory, rappelle-nous de ses grands faits d'armes.
Alors, c'est un cinéaste américain. Tout le monde croit qu'il est anglais, mais
oui,
il est américain.
C'est vrai.
Parce qu'il a beaucoup adapté E.M. Forster à l'écran, notamment
Maurice.
Chambre avec vue, Retour à Howard's End.
Excellent, j'adore.
Oui. Et là, donc, c'est quand même vieux monsieur, il ne fait plus, il est homosexuel, il ne fait plus de cinéma.
Non.
Il a,
tu me pètes.
Il a écrit ce scénario magnifique tiré d'un roman américain sorti il y a une dizaine d'années. Le film est quand même très très proche de Maurice. Donc, si vous aimez ce grand cinéma classique. Mais ce qui est très fin dans le film, vraiment très fin, c'est la manière dont est décrit l'indicible, le désir qui monte tout doucement, tout ce qui est caché en soi. Et puis c'est vraiment un film sur l'éveil à la sexualité de ce jeune adolescent. Moi, je trouve que c'est une merveille de film. C'est un film très solaire, avec de magnifiques paysages de la campagne italienne, tout ça. Donc, c'est vrai que on est quand même dans une famille bourgeoise. C'est un petit peu ce qu'on reproche au film. C'est une riche demeure. Il y a des domestiques. Les personnages parlent cinq langues. On est vraiment, voilà, dans un milieu social supérieur. Mais après tout, ces gens-là aussi ont aussi le droit de vivre et d'aimer.
Ont aussi ont des problèmes.
Les riches aussi ont des problèmes de riches.
Merde. Les riches aussi ont leurs soucis.
En tout cas, c'est un grand film mainstream. C'est un film qui fait déjà énormément parler de lui. Et c'est un film qu'on peut voir en famille. Et c'est quand même un film complètement déchirant, puisque c'est bien sûr l'histoire d'un premier amour et aussi surtout d'un premier chagrin d'amour. Voilà.
Comment il a spoilé?
Si vous avez un cœur,
ça c'est son cœur de midinette justement.
Si vous avez un cœur, vous allez craquer. Voilà.
Il y en a qui ont dit quand même c'est un peu mièvre, un petit peu.
Non, au contraire, moi je trouve ça très très fin, très subtil. Il y a rien n'est appuyé. Il y a pas de musique qui appuie. C'est tout dans le non-dit, dans les regards, dans le.
Tu parles de mainstream depuis tout à l'heure, donc ça veut dire quand même que est-ce qu'on peut en tant que homosexuel, on peut dire quand même que le film il est fait aussi pour les hétérosexuels, pour plaire à tout le monde.
Oui, peut-être, oui.
Donc, consensuel, c'est ça?
C'est un film consensuel, mais quand même qui va loin, comme qu'il y a des scènes de sexualité explicite. Il y a une scène de très masturbatoire où le personnage va faire l'amour à une pêche.
Va se masturber avec une pêche.
Va se masturber avec une pêche. Donc, on est vraiment dans des choses.
T'as jamais vu American Pie?
C'est une tarte. C'était une tarte.
American Pie. C'est American Peach. Donc, il faut parler vraiment des acteurs. Donc, il y a Armie Hammer, qui est une espèce de grand malabar blond, qui est quand même extrêmement, excessivement sexy. Et extrêmement beau, il faut bien dire Roméo, n'est-ce pas?
Ouais, c'est un acteur qui a tourné avec David Fincher.
Ne change pas de sujet, on demande ton avis sur le physique du monsieur, Roméo, pas sur sa
femme. Ah bah, moi, je l'ai su depuis longtemps, justement, il était dans David Fincher, il a fait Lone Ranger aussi, il joue le cowboy, et donc là, on le retrouve là-dedans, et donc c'est très intéressant de le retrouver là-dedans.
D'accord.
On attendait que ça.
Et il y a Timothy Chalamet, alors lui, c'est vraiment l'acteur qui a le vent en poupe actuellement. D'ailleurs, il me fait beaucoup penser à Roméo, n'empêche. Un petit côté Roméo, Timothée Chalamet, qui va jouer dans le nouveau Woody Allen, et on ne voit que lui dans le film. C'est vraiment une photogénie extraordinaire, il a un visage solaire, et ce film est un véritable bonheur, parce que même s'il est triste quand même, parce que c'est un film quand même qui déchire le cœur, c'est un premier amour, mais à la fin, le personnage fait un petit sourire, et on sent, en fait, que la vie continue, après tout. C'est comme lui, Marionnet.
Par contre, il faudrait que tu mettes sur la page Facebook, attention, spoiler.
Donc, il va être présenté aux Oscars, c'est ça?
Il s'est annoncé comme étant le grand champion des Oscars le 4 mars.
D'accord.
Voilà. Alors, il y a une photographie exceptionnelle. C'est pas évident de faire une grande fresque comme ça de 2h15.
2h15 dure le film.
2h15 alors qu'il n'y a pas d'action. C'est que des non-dits, c'est que des sentiments cachés.
Bah, et James Ivory, elle est un peu le spécialiste de ça, hein.
Oui, c'est ça. C'est le grand retour de James Ivory. Et on s'en réjouit.
Donc c'est Call Me By Your Name.
Voilà, appelle-moi par ton nom. Vous verrez, c'est une scène du film. Vous verrez pourquoi.
Film de Luca Guadagnino.
Voilà, qui est le cinéaste actuellement qui monte en puissance.
Très bien.
Et le film donc est dans tous les écrans, absolument de partout la semaine prochaine. Partout à Lyon, le Pathé, les UGC, le Comédia, les Cinémas Lumière, il est absolument partout.
Voilà. Très bien. Alors ensuite,
Milliardaire. Moi, je suis très très favorable à ce genre de film très mainstream et tout, parce que finalement, ça fait quand même avancer la cause. Voilà. C'est-à-dire que les homosexuels aussi peuvent aimer, peuvent avoir des sentiments très puissants, avoir un vrai amour sincère et passionné, et que ce n'est pas qu'une sexualité, c'est aussi une identité et de l'amour.
Et en même temps, on peut montrer des scènes d'amour homo comme on en montre des hétéros à longueur de temps.
Tout à fait. Et en plus, il y a quand même des scènes assez crues dans le film.
Ouais.
C'est un peu voilà, à quelque part, c'est un peu l'acceptation, une forme d'acceptation dans la société du fait homosexuel.
Oui, on peut dire. Bien sûr.
Voilà. Bah là, c'est quand même énorme ce que dit Yvan. Le film est distribué partout comme.
Ah, c'est un raz-de-marée, hein. Le film, c'est une.
Comme un film lambda, quoi. Comme
c'est un blockbuster. C'est un blockbuster. Là, ça rien. C'est un film distribué par Sony. Donc une très puissante société de distribution américaine qui envahit tous les écrans mondiaux avec ce film. Donc on s'en réjouit comme Moonlight l'année dernière.
Ouais. Et ça fait penser, bon, c'est très différent, hein, mais dans le sens de l'acceptation aussi dans la société mainstream, donc comme pour reprendre l'expression à la mode, effectivement, Brokeback Mountain finalement, qui a été aussi un film grand public sur un sujet quand même qui auparavant aurait pu être un sujet underground, et ça démontre quand même une certaine évolution progressive, lente, mais réelle.
C'est quoi, ça, la société. Moi, je dis que c'est le nouveau Brokeback Mountain. Mmh. Sauf que peut-être que Brokeback Mountain, il y avait une dimension sociale, hein, puisqu'on parlait quand même de ce qu'on appelle maintenant le white trash, c'est-à-dire les laissés pour compte blancs américains. Mmh. C'était ça le sujet, hein, c'était de pauvres mecs, quoi. Donc il y avait un sujet social beaucoup plus fort, beaucoup plus profond. Mais là, dans le genre chronique adolescente et chronique d'un premier amour, c'est un des plus beaux films sur le sujet.
Très bien.
Mais comme Brokeback Mountain, c'est un film qui sera vu par des millions de spectateurs. On s'en réjouit.
Bah tout à fait. On s'en réjouit.
On va faire beau Timothée Chalamet.
Ouais. On va. Tu l'as vu déjà toi le film
Non, mais j'attends beaucoup d'Armie Hammer. Moi.
Donc en tout cas, on lui souhaite aussi du succès aux Oscars. Finalement,
c'est ça. Ah bah oui, oui, oui. Mm. Et très certainement que Timothée, il va avoir quelque chose.
Ou Armie.
Bon, toi, des posters, non?
Pas lui, mais j'ai réfléchi.
Alors, le second film que tu évoquais tout à l'heure, dont nous allons parler ce soir, c'est un film qui était en avant-première au Comédia, je crois.
Avant-hier. On a vu avec Roméo en présence de réalisateur. C'est un premier film, c'est un cinéaste qu'on suit depuis des années. C'est un cinéaste expérimental français qui a œuvré dans de très nombreux courts-métrages, tous plus beaux les uns que les autres. Il est dans la mouvance cinéaste queer, romantique, à l'agent Cocteau, un petit peu, dans la même mouvance que Yann Gonzalez, l'auteur de des Rencontres d'après-minuit. Alors, le film sort aussi mercredi prochain. Là, par contre, on est complètement dans autre chose. C'est pas un film gay, c'est un film queer. C'est un poème cinématographique avec beaucoup d'éléments expérimentaux, quand même. Donc, le film est tourné en pellicule, ce qui est très rare, au format 4 tiers, en Super 16, il avait expliqué le réalisateur, avec des petits bords arrondis. Voilà. Donc, il y a déjà une petite image, un petit aspect rétro au film. Et le film est bourré de références, on pense bien sûr à Jean Cocteau, le film fait référence aussi au roman Les Garçons Sauvages de William Burroughs, on pense énormément à Jules Verne, à 2 ans de vacances, on pense à beaucoup à Roland Topor aussi pour le côté complètement surréaliste, on pense aussi beaucoup à de cinéastes expérimentaux japonais.
On pense à Chante à la nuit et ses soirées Les Garçons Sauvages.
C'est vrai, mais...
Que nous saluons au passage.
Et, oui. Et donc l'histoire, c'est quoi? C'est l'histoire de 5 garçons de bonne famille qui vont commettre un crime, un viol en fait, sur leur prof de théâtre, je crois, joué par Nathalie Richard. Et donc ces 5 garçons vont être condamnés en fait à partir sur une île pour apprendre à être meilleur, à être plus doux. Donc ils vont être embarqués sur un bateau avec un capitaine Rotor, comme on dit, qui va les amener sur cette île. Et c'est une île enchantée, c'est une île sexuelle dans laquelle les arbres sont en forme de sexe, les plantes aussi en sexe féminin. C'est une sorte de paradis sur terre, de paradis de l'amour. Les personnages s'abreuvent de nectar blanc qui coule de fruits et en forme de sexe masculin. Et petit à petit, ces garçons vont s'adoucir et devenir des femmes. Alors, ce qui est très intéressant, pourquoi c'est un film queer, c'est que les personnages des 5 garçons sont joués par 5 actrices. Donc déjà, c'est déjà queer à la base. Elles sont absolument stupéfiantes. Elles ont toutes une identité, moi je trouve quand même assez reconnaissable. C'est remarquable. Et on est aussi dans une esthétique... Jules Verne, c'est-à-dire steampunk, un peu. C'est-à-dire avec des machines, enfin une ambiance Jules Verrienne. Et puis ce qui est très intéressant aussi, c'est que le film contient énormément de trucage, mais de trucage optique. Le réalisateur Bertrand Mandico est un fou de cinéma, il a refusé de faire appel au numérique et donc il fait les trucages en temps réel sur le plateau. Par exemple, les scènes de jungle par exemple, les personnages jouent devant un écran dans lequel est projeté le décor de la jungle. C'est comme ça qu'on faisait notamment dans les premiers films d'aventure de science-fiction comme King Kong par exemple. Quand ils sont en mer sur le bateau avec le capitaine, pareil, c'est une projection de la mer derrière. Donc on est dans un monde onirique, dans un monde très baroque, très fétichiste, très maniéré aussi. En tout cas, c'est une véritable proposition de cinéma. Je sais pas ce que tu en penses, Roméo. Moi, j'ai trouvé le film beaucoup trop long, deux fois trop long. Mais moi, quelque part, j'aime bien les films imparfaits aussi parce qu'ils restent en tête. C'est une vraie proposition. C'est poétique. C'est beau. C'est très sensuel.
Moi, je l'ai pas trouvé trop long. Il y a peut-être, c'est vrai, deux trois problèmes de rythme, mais c'est vraiment pas l'essentiel, quoi. C'est vraiment un univers extraordinaire. C'est pas un film millimétré comme les films, enfin c'est pas un film commercial américain. Voilà, c'est une proposition justement au voyage. Les plans sont extraordinaires. Ça fait penser à du Pink Narcissus, à du Jean Genet, à du Fassbinder. Enfin voilà, c'est pour ça que c'est queer aussi. Le réalisateur disait oui. Enfin, je suis pas un fou de références, c'est quand même bourré de références. Et oui, les actrices sont extraordinaires. Il y a Vima Laponce, qui est une actrice montante en France, qui est circassienne, qui vient du cirque, et qui est vraiment... Enfin,
bah, c'est le sosie d'Alain Delon hein, dans le film, un peu. Hein.
C'est pas faux. Et qui est magnifique. Il y a Diane Roussel aussi, qui a le tourné dans le dernier Larry Clark, qui est dedans, qui est aussi très très bien. Enfin, il y a des actrices qui sont voilà, qui sont en train de monter, qui sont. Enfin, c'est vraiment à ne pas rater. Voilà. Et donc, si on aime Yann Gonzalez, les Rencontres d'après-midi, c'est les mondes un peu voilà, qui nous sortent justement du réel. C'est ça aussi le cinéma, c'est le rêve. Donc voilà, c'est un appel extraordinaire. Les Garçons Sauvages.
Et puis surtout, c'est complètement queer.
Et le réalisateur, il a expliqué son choix, pourquoi avoir choisi des filles pour tourner les rôles de garçons.
Non, il n'a pas expliqué ça. Par contre, moi, je pense que le cinéaste, il est queer. Hein. Je veux dire, pour moi, ça fait absolument aucun doute, hein, comme Yann Gonzalez d'ailleurs. Mais pourquoi ? Non, je pense qu'il voulait.
Si, il a un peu expliqué. Il pensait que ça pouvait être une proposition plus intéressante, justement, de faire appel à des actrices. Puisqu'il considérait que des actrices pouvaient jouer des personnages masculins, et donc il voulait leur faire jouer ce rôle, ce trouble. Il parlait beaucoup de trouble justement entre les genres masculin et féminin. Donc voilà, quand on parle de queer, je pense qu'il l'a pensé et théorisé aussi. Et donc
c'est des garçons jeunes aussi.
Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que donc ce sont des garçons joués par des filles qui, une fois sur l'île, vont redevenir filles. Mmh. Et la scène du début, quand même, c'est comme une scène de viol collectif de filles, en fait, sur une femme. Donc c'est troublant tout ça aussi.
Puis dans le sens de la narration et du trucage, là, c'est un petit peu plus terre à terre. Je pense que c'était aussi un petit peu plus facile pour lui de faire appel à des actrices, puisque elles comme c'est.
Ah oui. Elles redeviennent femmes, c'est ça?
Bah voilà.
Oui, peut-être, oui. Elles se reféminisent, oui, c'est ça. Donc, voilà, si vous aimez ces ambiances à l'île du docteur Moreau, 2 ans de vacances de Jules Verne, l'ambiance steampunk, si vous aimez Jean Cocteau, si vous aimez Jean Genet, si vous aimez aller au cinéma pour partir dans un autre monde, allez découvrir donc Les Garçons Sauvages qui sort mercredi prochain. En tout cas, il sort au Comédia.
Les Garçons Sauvages de Bertrand Mandico, qui était donc présent lundi à l'avant-première au Comédia.
Les Garçons Sauvages, c'est aussi un roman de William Burroughs, qui est un roman d'anticipation, en fait, qui se déroule en 1988 avec des garçons hybrides révolutionnaires et terroristes, en fait. Tu l'as lu?
Non, mais je veux bien que tu me ramènes un exemplaire dans la bibliothèque.
Et donc, le livre est écrit en technique du cut-up, c'est-à-dire avec des textes déjà préexistants qu'il a redécoupés, et on se perd complètement dans le livre. Et dans le film, on se perd aussi beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où on décroche un peu et on est entre deux eaux, entre deux rêves. Et c'est aussi, je pense, aussi une volonté de réalisateur qui aime bien. J'ai écouté une émission radio dans laquelle il dit qu'il aime bien se perdre dans un film aussi. Et c'est vrai que dans le cinéma italien des années 60 et 70, auquel dont il est très friand, c'est très souvent du cinéma dans lequel on se perd. Au bout d'un moment, on perd... Voilà, c'est une belle proposition.
Des méandres, des tableaux en fait.
Oui, c'est ça. On est voilà, on est à un moment donné, l'œuvre prend le pas, on va dire, sur le metteur en scène. Mmh. Voilà, c'est l'œuvre qui est autonome. C'est très intéressant.
Moi, ce qui m'intrigue dans ce dans cette histoire, c'est que donc tu dis à la fin, donc c'est des garçons joués par des filles et qui à la fin deviennent filles. Donc en fait, en gros, on comprend que sur l'île, qui est une île merveilleuse. Que forcément donc les garçons s'adoucissent et deviennent des filles.
Oui, c'est ça.
Alors, est-ce que quelqu'un lui a posé la question, est-ce que c'était pas un peu simple de dire que bah que en fait c'est un peu quand on devient doux, les filles sont forcément plus douces que les garçons.
Mais elles sont là ou non, parce qu'à la fin, il me semble-t-il, elles commettent un crime.
Oui, parce qu'elles sont pas très douces en fait.
Non, voilà, ce sont des radicales à la fin, donc elles sont tueuses à la fin.
En fait, elles restent garçons, oui. C'est leur apparence qui change. Voilà, donc c'est aussi très lié à la transidentité, et donc c'est vraiment puissant. Enfin, je pense qu'il l'a vraiment pensé, et on peut vraiment pas l'attaquer de sur le côté voilà qui renferme, qui revient après à des
identités,
ouais, des clichés sur les femmes. Non, au contraire.
Oh non, on nous trouble tout le long du film.
C'est ça. Il nous perd, et je pense que c'est son but, et c'est assez bien réussi.
Alors c'est bien de parler de ça, je dirais, parce que ça va m'amener un petit peu à une annonce que je voulais faire rapide, mais on est toujours un peu dans cette histoire, dans ce cinéma expérimental de transformation aussi d'hybride, de métamorphose, très friand aussi, qu'on retrouve très souvent dans la mythologie antique, d'ailleurs la mythologie grecque, où on change très facilement de sexe. Et il se trouve que le collectif Les Météorites, tu m'as dit que tu connaissais.
Oui, ce sont nos voisins, ils habitent à la même adresse que nous, à Écran Mix. On se croise tous les matins et tous les soirs dans les escaliers.
D'accord. Bon.
Alors, il faut dire, c'est un collectif donc de cinéma expérimental. Ils sont excellents. Ils sont d'enfer. Ils vont chercher des choses extraordinaires. Surtout, leur truc, c'est d'investir à chaque fois des lieux improbables. Une église, des cinémas, certes, mais pas que. Des squats. C'est extraordinaire. Et ils ont un monde fou.
Et là, en l'occurrence, l'événement dont je voulais parler, la présentation qu'ils vont faire, la prochaine présentation cinématographique qu'ils vont faire, ça sera au Zola. Tu connais bien aussi le cinéma Zola, donc cours Émile Zola, évidemment, à Villeurbanne. Un bon cinéma que tu connais bien. Et ça s'appelle Amour et métamorphose. Donc ça rejoint tout à fait ce dont nous parlions auparavant avec Les Garçons Sauvages de Bertrand Mandico. Amour et métamorphose, c'est un sous-titre Conte transgenre. C'est un film franco-italien de 2015 qui dure 1h28, qui a été réalisé par une réalisatrice franco-israélienne qui s'appelle Yanira Yariv. Alors, je lis le pitch, hein. Moi, j'ai pas vu le film, mais je lis le pitch, et ça devrait d'autant plus t'intéresser, parce que ça se passe en Italie, nous connaissons ton amour de l'Italie, Yvan. Près de Rome, les dunes de Sabaudia, les marais du Circé et la cascade montagneuse d'Arpino sont le décor de fameuses transformations. Et là, on est dans la mythologie. Callisto y est changé en ours. Jupiter se métamorphose en Diane. Glaucus devient un monstre marin et la nymphe Salamakis se fond dans le corps du jeune Hermaphrodite, dont on sait qu'il avait les attributs des deux sexes, l'Antiquité. Dans chacune de ces transformations se joue aussi celle de leurs interprètes, questionnant le rôle des identités et des genres. Voilà, c'est le pitch de...
Mais moi je vais le gronder, puisque pourquoi il nous propose pas ça à Écran Mixte?
Absolument.
On se croise tous les jours, il passe ça 2 semaines avant l'ouverture d'Écran Mixte.
Heureusement, il ne passe pas pendant.
On aurait pu intégrer ça à la programmation, ouais. Du cinéma expérimental comme ça.
C'est mardi 27 février à 20h30, donc au Zola, 117 cours Émile Zola, Villeurbanne. Prix d'entrée 5,80€.
Oui, en plus c'est sympa. Non, mais franchement, il faut y aller. En plus, il ramène un monde fou, quoi. En plus, il déniche des trucs, je sais pas, parce que moi j'ai jamais entendu parler de ce film.
Ouais.
C'est incroyable.
Tu vas y aller alors?
Peut-être. En burqa.
Ah oui, parce que ça va faire un peu, il faudra te déguiser, hein, effectivement. Il faudra pas qu'on te reconnaisse, tu as raison. Alors, que voulais-je dire encore? Donc, je voulais annoncer cela. Bon, le film, moi non plus, je le connais pas, hein. Je l'ai découvert tout simplement parce que j'ai vu l'annonce passer sur les réseaux sociaux.
Ça fait envie, hein.
Et oui, c'est vrai que le film a l'air très, très motivant, en tout cas. Oui. Le pitch a l'air très intéressant. Que voulais-je dire encore? Je voulais dire des tas de choses. Je voulais parler aussi, alors, en concurrence, concurremment avec votre atelier de samedi. Mais on en a parlé la semaine dernière, mais je voudrais le repréciser. Va avoir lieu le quatrième atelier, donc, Clitovulve au centre LGBTI. Bah là, c'est marqué quatrième. Non? Cinquième, t'as raison. Ah oui, mais c'est moi. Faut que je change de lunettes. Cinquième édition de l'atelier Fier, Clito Vulve, organisé par le collectif Les Bengonais, qui était ici, enfin, Stéphanie Brunet, le collectif était ici avec nous. Et nous avons parlé longuement de cet atelier, et aussi du clitoris. Le clitoris était notre invité principal la semaine dernière. Voilà.
La grande mystérieuse.
Voilà. La grande mystérieuse.
C'était très sympa.
C'était sympa. Et donc, on a parlé de cet atelier où on peut faire aussi du modelage, là, en l'occurrence, et du coloriage. Mais pas que, hein, c'est aussi une journée d'information, voilà. Alors, en mixité choisie. Donc, en fait, les mecs cis gens qui sont exclus. Non, on peut pas y aller. Logiquement. Enfin, toi, non, je sais pas. Parce que tu...
Moi, c'est un peu comme les garçons sauvages, moi.
Non, c'est pas ce qu'ils trouvent sous les arbres.
Ce qui est intéressant, c'est que dans le cadre des Cramix, on va passer un documentaire qui s'appelle Vulva 3.0, qui retrace la représentation du sexe féminin et de la vulve depuis l'histoire de l'humanité.
D'accord.
Depuis l'histoire de l'art. C'est très intéressant.
Et qui rappellera donc que clitoris, le grand oublié, clitoris de l'anatomie féminine.
C'est ça. C'est ça. C'est le sujet même du film. Vulva 3.0, on le passe en bibliothèque pour la journée du 8 mars.
Oui.
Voilà.
Alors, c'est l'occasion de dire que la semaine prochaine, d'ailleurs, Yvan, tu seras à nouveau parmi nous, et cette fois-ci pour le festival Écran Mixte, donc Mixte qui va commencer. Il va commencer donc le 7 mars.
Dans deux semaines exactement.
Avec une programmation aussi
exceptionnelle
comme toutes les années, mais à chaque fois c'est une montée en puissance, on gravit toujours un échelon, c'est ça.
Ben oui, là c'est 13 séances en plus, 60% de séances en plus, 18 lieux et 2 jours en plus.
Moi, ce que j'aime bien aussi, entre parmi toutes les choses que j'aime bien à Écran Mixte, c'est le fait que c'est un festival décentralisé. Il y a plusieurs lieux comme tu disais, mais il y a aussi des lieux qui se trouvent en dehors du centre de Lyon, qui se trouve en banlieue, en périphérie lyonnaise, et ça, je trouve que c'est une idée toujours très intéressante.
Et c'est particulièrement militant, et on s'est battu, parce que sachez que les distributeurs n'aiment pas beaucoup qu'on passe leurs films en banlieue. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils disent. Ils disent pourquoi mon film passe en banlieue, et pas au centre-ville. Donc nous, en tant que militants, on défend les films, et on les défend dans des belles salles art essai de la métropole. Tout simplement, on va à la rencontre des gens. Et on fait des belles propositions. Voilà.
Voilà, donc ça.
Et on va faire mentir les distributeurs qui sont pas contents. Les salles seront pleines.
Oui. C'est un peu du...
Ah, mais vous savez, les Parisiens, enfin, les distributeurs viennent de Paris.
Ouais.
Déjà, il n'y a rien qui existe à part Paris.
Ouais.
Alors, Lyon, déjà, voilà. Et en plus, la banlieue de Lyon, c'est même pas la peine, quoi.
Ouais.
Voilà. Et non, vous n'aurez pas notre avant-première, mais on s'est battu, on a eu tout ce qu'on voulait.
Et donc, une programmation, encore une fois... consacré aux femmes.
Oui. La journée du 8 mars, il y a ce documentaire Vulva. Il y a énormément de documentaires. Je pense qu'on n'a jamais passé autant de documentaires. Et en particulier des fictions trans, magnifiques. Et puis surtout, on va projeter aux Alizés à Bron, au Ciné Toboggan à Décines et au Ciné Morguet à Sainte-Foy-lès-Lyon, trois villes de la métropole.
Mais de tout ceci, nous reparlerons la semaine prochaine, puisque tu reviens pour cette émission spéciale Écran Mixte, Festival Écran Mixte, version 2018. Je voulais aussi rappeler qu'en ce moment a lieu, alors, c'est très différent du Festival Écran Mixte, c'est pour ça que je prévois un petit peu, tu vois, j'anticipe un peu la réaction des gens, mais oui, en ce moment, le plus grand, enfin, à mon avis, le plus grand festival de cinéma LGBT queer du monde. De quoi veux-je parler?
Attends. Ce n'est pas un festival.
C'est pas un festival. Pas
du tout. C'est une salle. Allez,
vas-y.
Non, c'est le festival de Berlin.
Voilà.
Mais c'est pas ce n'est pas un festival.
C'est une cérémonie?
C'est une sélection LGBT queer au sein du grand festival.
Berlinale. Mais attention, c'est classe. Ah oui. Les Sophie Awards, c'est extrêmement classe. Il y a quelques années en arrière, ils fêtaient leur 30e édition. Mmh. Et, elle avait été diffusée sur Arte. Et c'est vraiment, ça se passe dans un hall, enfin ça se passait là, je me souviens, dans un hall immense avec des centaines d'invités, et puis ça se déroule vraiment comme une cérémonie des Oscars ou des Césars, par
exemple. C'est génial. Et l'année dernière, Monica Troutt a reçu le Teddy Award pour l'ensemble de son œuvre. Monica Troutt, qui sera là dans 15 jours à Lyon au festival. Ouais.
Chaque année, déjà, il y a un artiste qui est effectivement nominé, je dirais, pour avoir un Teddy Awards d'honneur pour toute sa carrière. Alors il y a eu Helmut Berger qui avait une année été nominé, donc tu as cité Monica Troutt qui sera à Lyon, qui a été nominée l'an dernier, et actuellement, et puis après bon, il y a des Teddy Awards, donc des prix réservés par catégorie, ça ressemble un petit peu quand même aux cérémonies des Césars ou des Oscars.
Et ça peut être LGBT, c'est très prestigieux.
Ah, c'est extrêmement prestigieux. Et puis c'est vraiment glamour et tout. Il y a des extraits de films qui passent sur les grands écrans, dans des salles immenses. C'est, on peut dire que c'est quand même le festival. Enfin, oui. D'accord, c'est pas un festival, mais le plus grand. Même aux États-Unis, il y a pas l'équivalent.
C'est la plus grande sélection LGBT au monde.
Ouais.
C'est un des plus anciens aussi.
Un des plus anciens, mais puisqu'il fêtait ses 30 ans, il est en 2016, je crois. Hein, donc.
Il y a tous les programmateurs LGBT du monde. Ouais. Nous, on y va pas parce qu'on est toujours à 15 jours du festival. Mais sinon, il y a tous les festivals LGBT qui se retrouvent là-bas. C'est le festival de Cannes, si vous voulez, des LGBT queer.
Alors, écoute, regarde bien, suis bien ce qui va se passer. Prends un peu exemple ce talent que j'ai de transition. Donc, l'Allemagne que nous aimons tant aussi, qui est exceptionnel. Nous avons beaucoup parlé. J'aime beaucoup Berlin comme ville parce que c'est une ville très queer aussi, très LGBT, et dont les racines LGBT sont très importantes. On a souvent parlé ici. Rappelle-toi, Laurence, de l'histoire du Berlin des années 30, voilà, qui était une scène LGBT la plus florissante du monde à l'époque, on peut dire. Après, avec malheureusement la suite qu'on connaît. Mais donc le festival qui a lieu à Berlin, ça c'est une.
Espérons que l'histoire ne se répète pas.
Exactement.
En tout cas, en France, en ce moment, on peut se poser la question. Hein.
Ouais. Non, mais le Lot, il va disparaître de la circulation avec toutes les conneries.
Moi, je parle pas du migrant.
Je pense qu'il va parler de Lot.
Il est en train de se passer en France un crime contre l'humanité.
Ah oui. Par rapport aux
migrants. Et la population ne fait rien.
Par rapport à la loi.
Et c'est gravissime ce qui se passe.
Après, tu faisais allusion à Le Lot.
Arrête de l'appeler Le Lot, c'est mon surnom.
Parce que Le Lot, il a fait
du Vautier. C'est plus simple.
La Vautiaise fait des siennes en ce moment.
Mais merde.
On va peut-être disparaître un jour du pays.
L'avantage, c'est que ils n'arrêtent pas de parler de Vautier, du coup, on parle pas de la famille Le Pen. Mais bon, vu que c'est presque pareil.
C'est pareil, voilà. Bref, en tout cas, pour revenir à nos moutons allemands. Ouais. Alors, donc, on sait que chaque année, le festival Écranique, justement, a en collaboration avec le Goethe-Institut, des sélections, etc., toujours très intéressantes.
Oui.
On a vu des films extraordinaires de la cinématographie allemande. On a vu Victoria, en original. On a vu...
Le film uniforme.
Voilà.
Et puis, on a vu un film de Werner Schroeter aussi.
Je le fais à l'uniforme, je n'ai jamais vu ce film.
Il y en a plusieurs versions.
Merde.
Et lui, et là, Hugo qui situe
la version
allemande.
Je sais bien,
on a eu dans la commission. Réalisé par une femme, et qui était le plus grand succès du cinéma allemand en 1931.
Moi, je sais là.
Cette grande époque florissante dont nous parlons, nous aimons. Ouais.
Et donc, cette année, on sera encore en partenariat avec le Goethe-Institut, puisqu'on fait venir Monica Troutt pour une masterclass et 3 séances gratuites. Au Goethe.
Eh bien ça, c'est quelque chose de très bien. Il y avait eu aussi le premier film militant LGBT, gay, on va dire, c'est plutôt un film gay, homo, allemand.
Différent des autres, 1919.
Voilà, ça c'était extraordinaire. Et c'est pour rappeler l'importance aussi de l'Allemagne dans la construction de l'identité LGBT contemporaine. On parle souvent des États-Unis, mais...
Non, mais la plus grande réalisatrice queer, elle est allemande, hein, c'est Monika Troutt.
Voilà, qui sera donc, nous rappelons, est-ce qu'il y a des billets? Ce qu'il y a de bien, c'est que la dernière chanson que nous allons entendre, c'est une grande allemande aussi que nous aimons beaucoup, c'est Nina Hagen. Tu nous diras pourquoi tu l'as choisie. Je voulais faire juste, avant de passer Nina Hagen, et avant que tu nous dises pourquoi tu l'as choisi d'amener ce morceau, parce que c'est toi, Yvan, qui a amené ce morceau. Et avant, je salue tout le monde. Merci Roméo, merci Bernard, merci Laurence, merci Yvan. Il reste plus que 5 minutes. Je voulais dire que le 1er mars 2018, c'est un dimanche, je crois.
Non, c'est en semaine. Non plus.
C'est en semaine?
Oui.
C'est en semaine, le 1er mars?
Oui, oui.
Alors, attends.
C'est un jeudi.
C'est un jeudi, merci. Merci, parce que j'ai perdu mes notes, alors ça, c'est chiant. 1er mars, en fait, il se passe à Mairie du 8e, dans le cadre des consultations de révision de la loi de bioéthique, une rencontre citoyenne, qui s'intitule PMA, Avenir, je sais plus exactement, mais enfin, ça porte sur la PMA. Et on a reçu un petit message de, je vais pas le lire en entier, je le relirai la semaine prochaine, de, enfin, il a envoyé un message sur Facebook, ça c'est la délégation SOS Homophobie de Lyon, qui veut rappeler que la Manif pour tous fait du lobbyisme dans ses consultations. Ils sont très présents et ils donnent beaucoup de la voix. Et donc,
ils ont rien d'autre à faire.
Voilà. Et on peut s'inscrire sur le site Herrera, E2RERA.com pour s'y rendre, pour faire entendre nos points de vue.
Hein, et par contre, moi, je voudrais quand même rappeler que la PMA était au programme de Macron. Parce que faut pas oublier que Hollande, lui, il en avait parlé. Il avait parlé dans son discours de Bourget, mais il n'était pas dans son programme. Alors que la PMA était noir sur blanc dans le programme. Et là, maintenant, on fait encore appel à la commission.
Oui. Mais il a raison, on va la mettre en
place. Mais si on t'emmerde, d'ailleurs.
Non, il a raison, comme ça, on peut commencer à écouter Nina Hagen, comme ça, on pourra continuer à parler vite fait. Moi, je cherche mes notes. Alors, c'était le 1er mars, c'est la mairie du 8e. L'espace citoyen de mairie du 8e, je crois que c'est à 18h. Site rra.com. Alors, on entend Nina Hagen, notre allemande favorite, notre chanteuse allemande favorite. Alors, pourquoi tu as choisi ce morceau, Yvan?
Parce que c'est, elle fait partie de la BO des Garçons Sauvages, une très très belle scène d'orgie, où les cinq garçons font l'amour en même temps, une scène très sensuelle sur une plage, sur cette musique.
Alors, pour finir, je rappelle, donc, soirée du jeudi 1er mars, je trouve les notes, 2018 à l'espace citoyen de la mairie du 8e, de 18h à 21h. Inscrivez-vous sur rra.com, je mettrai les infos. Je rappelle que le 24 février samedi, les ateliers,
mémoire minoritaire, le Major Massé, de 14h à 17h.
Que nous retrouverons Yvan la semaine prochaine, Yvan Mitifio, pour Écran Mix qui va commencer bientôt.
Bonsoir.
Qu'est-ce que je pourrais dire encore, Laurence? À part
tu que tu
secrètement amoureux de toi. Ouais,
c'est plus un secret, tu sais, même.
Qu'est-ce qu'il y a force de dire? Alors, les ateliers, c'est Bibliothèque Jean Masset de rue d'Aubert. Faudrait préciser, dans 7e atelier minoritaire. C'est accessible en métro, en tram, hein. Pas d'excuses pour pas y aller. Voilà. C'est tout. Bonsoir. Merci de nous avoir
écoutés.
Bonsoir.
Ah oui, c'est bien.
Bonsoir.
Va aller là-bas.
Ah oui?
Moi, j'ai pas pu avoir place.